Brigitte et Gaston Sylvestre, votre art vous a permis de voyager tout autour du monde, à la rencontre d'univers musicaux très différents, différents les uns des autres, et différents aussi de celui auquel nous sommes accoutumés. Peut-être racontez-nous ce que vous y avez découvert. Votre premier voyage.
Bon, mon premier voyage. Mon premier voyage m'a amené à Abidjan. Pour de la variété, j'accompagnais Philippe Clay à l'époque. Et je n'ai rien écouté. Quand on est dans une bulle de variété, on rencontre des gens de variété, mais on ne rencontre pas la musique qui est la leur au plan
authentique.
Social, authentique. J'ai eu l'occasion après de voyager beaucoup, j'ai rencontré des Africains. Les Africains, on avait eu une rencontre assez étrange. On avait fait un concert dans lequel on avait joué au Code Xenakis, qui est pour trois djembés. Et jouer trois djembés en Afrique, c'est un peu quand même une provocation extrême. Et donc, ils sont revenus vers nous après en nous disant « Mais vous vous moquez de nous, vous insultez la musique africaine, et plus que ça, vous insultez notre religion qui est le vaudou. »
Animiste ?
Non, le vaudou. Vous insultez le vaudou. Comment vous pouvez expliquer ça ? Alors on leur a dit « Surtout pas. Notre propos, c'est pas ça. Nous jouons un compositeur qui est européen, qui a écrit cette partition qu'on va vous montrer. Il voulait avoir la richesse de ses instruments. Nous ne sommes pas en train de plagier un langage qui est le vôtre. Bien s'en faut parce qu'on est incapable de le faire. » Ça veut dire qu'on reconnaît chez vous une potentialité musicale et sociale qu'on respecte au plus haut point. Simplement, on voulait vous montrer qu'un compositeur européen prend cet instrument pour la richesse des sons qu'il provoque. Nous ne sommes pas là pour essayer de dire qu'on joue mieux que vous. On est au centième de votre distance. On sera incapable de jouer comme vous pouvez jouer. Simplement, on voulait vous montrer comme témoignage que votre culture, la richesse instrumentale que vous proposez, intéresse aussi des compositeurs européens. Mais pas du tout sur le plagiat, pas du tout sur la critique, pas du tout pour dire qu'on est meilleur que vous. C'est simplement pour vous montrer que votre culture intéresse aussi les gens qui n'appartiennent pas à cette culture, et voilà ce qu'ils en font. C'est simplement un témoignage qu'on voulait vous montrer, et pas du tout une critique, ni une prise de position pour vous montrer que nous sommes supérieurs en quoi que ce soit. Mais ça a été très douloureusement vécu. Donc, ça a été le contact avec l'Afrique. J'ai eu l'occasion après de voir...
Mais pourquoi du coup avoir utilisé un djembé plutôt qu'un tambour ou une timbale ?
Parce que c'était écrit pour djembé.
Alors pourquoi l'historique de ça. Xenakis voulait écrire un trio pour nous. Donc il est venu dans notre studio de travail et il nous a fait jouer tous les instruments possibles et imaginables qui étaient dans ce studio. Il y a 300 mètres carrés et on ne savait même pas où on pouvait répéter tellement il y avait d'instruments. Il est tombé sur le djembé, il a écouté le djembé sur toutes ses faces. D'ailleurs, il nous a demandé, ce qui m'intéresse dans cet instrument, c'est le son qui part du fu de l'instrument. Et donc, on ne va pas le jouer comme on le joue d'habitude, vous allez le mettre sur des portiques où le fu sera face au public. Alors l'image, c'était que finalement, il y avait trois individus qui jouaient et à la place du visage, c'était un djembé à l'envers qui partait. Et effectivement, les sons qu'on provoquait sur ces instruments, c'est des sons qu'on ne peut pas obtenir sur un tambour, qu'on ne peut pas obtenir sur un tom, qu'on ne peut pas obtenir sur un zab. Il n'y a aucun instrument qui peut générer de pareils sons. Donc, il a été très intéressé avec cette couleur sonore, avec cette capacité de timbre qui est inhérent à cet instrument. Et donc, il a utilisé cet instrument pour la richesse sonore de cet instrument, pas plus. Donc pour lui, c'était un objet qui était à montrer sur une scène européenne et non pas africaine. Donc c'était pas une provocation pour lui, c'était simplement de se dire, j'ai découvert cet instrument, j'ai envie d'écrire pour cet instrument, avec ma technique, avec la technique de ces individus qui sont face à moi et qui peuvent provoquer les sons que j'ai entendus et qui m'intéressent à essayer d'organiser à l'intérieur d'une composition. Voilà, c'est tout. Donc c'était un propos de compositeur face à l'instrumentarium qui est la percussion, parce qu'après tout, la percussion, elle n'est qu'étrangère. Le seul instrument de percussion qui appartienne à l'Europe, c'est la cloche de vache.
Du tambour militaire ?
Non, pas du tout. Ça vient des génissaires musiques du Moyen-Orient. Ça vient pas d'ici. Ah, les timbales, c'est pareil. Il n'y a aucun instrument de percussion qui soit d'origine européenne. La cloche de vache. Peut-être que je rajouterai la crécelle. Et encore, elle existe dans tous les autres pays. Mais sinon, je ne vois pas la percussion comme étant un instrument européen. Donc, qu'ils prennent ce djembé ou qu'ils prennent autre chose, de toute façon, c'est un instrumentarium qui vient d'ailleurs. Donc, il n'y avait pas pour lui de difficulté de se dire « je vais écrire sur cet instrument plutôt que sur un autre ».
Donc, selon vous, on peut tout à fait extraire un instrument de la culture dont il est issu sans être obligé à être dans une forme d'ethnicité ?
Ah, c'est une chose, ça c'est une question qui m'intéresse beaucoup. Je pense que l'intérêt de prendre un instrument, pour moi, je parle seulement pour moi, c'est de se dire, cet instrument, je ne le connais pas, je ne sais pas comment il se joue, je vais me l'approprier et travailler sur cet instrument pour construire mon langage. Je n'ai rien à foutre de savoir comment il se joue. Je me l'approprie et je joue dessus. C'est intéressant
pour
ou pas
moi,
intéressant
c'est différent.
C'est... Oui, bien sûr.
C'est différent parce que quand j'ai commencé à jouer le gamelan, je ne savais pas non plus comment ça se jouait, mais j'ai appris à le jouer dans une fonction bien précise de musique balinaise. Et je ne me le suis pas approprié pour faire autre chose.
Bien sûr, parce que tu as un instrument qui est répertorié dans notre langage, sur lequel on peut faire beaucoup de choses, mais qui appartient à notre culture. L'instrumentation de la percussion, elle n'appartient pas à notre culture. Donc, on est beaucoup plus apte à prendre n'importe quelle chose pour en faire son instrument. Donc, pour moi, l'instrumentarium que je peux trouver ailleurs ne passera que par ma fantaisie et mon goût d'en faire quelque chose. Ceci dit, j'ai énormément de respect pour les musiciens qui travaillent sur ces instruments d'une manière ethnique. Ça, je trouve ça absolument fabuleux. Et jamais, au grand jamais, je n'arriverai à la cheville de ces gens-là. Ça, c'est évident. C'est évident. Si j'écoute James Chimirani jouer du zarb, je ne vais pas dire que je joue du zarb. Non, je prends cet instrument pour en faire ce que je veux, mais je ne joue pas de zarb. Et jamais je pourrais dire que je sais jouer du zarb. Non, c'est une chose qui ne me viendrait même pas à l'esprit. Mais ça ne m'empêche pas de prendre cet instrument et d'en faire ce que moi j'ai envie d'en faire. Maintenant, quand j'écoute Djemchi jouer, quand j'écoute Chaturlan jouer des tablas, quand j'écoute la musique balinaise, quand j'écoute la musique... Mais n'importe quelle musique, j'ai un respect fou pour les gens qui travaillent sur ces instruments parce qu'ils sortent. Ils sortent une esthétique, ils sortent une musique, ils sortent une image sociale qui est tellement puissante que jamais au monde on pourrait arriver à faire ça. Donc, pour moi, la musique ethnique est d'une richesse incontournable. C'est une chose qui ne se discute même pas. Mais par rapport à l'instrument lui-même, par rapport à l'objet, alors l'objet, je peux le prendre et en faire ce que j'ai envie d'en faire, sans aucun complexe.
Vous l'avez évoqué tout à l'heure, vous êtes allé très souvent en Asie à la rencontre de notamment de la musique du gamelan. Peut-être vous pourriez décrire un peu plus précisément ce qu'est le gamelan et comment est-ce que cette musique se pratique ? Dans quel contexte ? Est-ce que c'est une musique de cour ? Est-ce que c'est une musique...
Je pense qu'il y a les deux musiques. Il y a une musique de cour qui est peut-être un peu plus liée au gamelan javanais. Le gamelan balinais est un peu plus festif, un peu plus peut-être paysan dans le sens large du terme. Comme Gaston a travaillé avec un village balinais, je pense qu'il pourra mieux en parler que moi.
Ouais, c'est encore une fois une expérience qu'on a eue avec Georges Aperdis. On a décidé un jour de se dire on aimerait travailler avec une autre civilisation qui travaille sur la percussion et sur le théâtre. Et on a pensé à Bali. Donc on a mis en route un projet et on a demandé à Georges de venir avec nous. Donc on s'est retrouvé à Bali après moult péripéties et on a travaillé avec ce village. Bien sûr, nous on ne faisait que la musique de Georges et le village ne faisait que la musique balinaise. Et là, on s'est rendu compte que cette musique nous a posé énormément de problèmes simplement de perception musicale, ça veut dire simplement de savoir comment ça fonctionne. On a eu des chocs absolument fous. On a vu, par exemple, au cours de répétitions où on travaillait donc en binôme, des musiques d'une difficulté extrême à jouer et avec un des personnages qui n'arrivait pas à jouer ça, qui n'arrivait pas à comprendre. Une musique d'une virtuosité absolument faramineuse. Et on a vu l'individu qui était à peu près le chef de ces instruments, sortir de ce instrument, se mettre en face l'autre et lui jouer cette musique d'une virtuosité absolument folle à l'envers. C'est-à-dire se mettre à l'envers de l'instrument et refaire la même musique. Essayez de vous mettre sur un piano et vous jouez la même chose en étant allongé sur la queue du piano parce que c'est plus confortable et puis vous jouez la même chose. On a simplement posé la question, mais comment tu peux faire ça ? Comment tu peux jouer à l'envers ? Il nous a répondu, mais je ne joue pas à l'envers. Je ne comprends pas ta question. Et je lui ai dit, écoute, si tu joues ça dans ce sens-là, tu te mets de l'autre côté, tu es obligé de le jouer dans l'autre sens. C'est donc, si c'est une pièce, j'arrive à le faire maintenant, si c'est très facile, et encore, je m'en mets les pinceaux, mais comment tu peux arriver sur une chose aussi virtuose ? Tu as donc travaillé ça d'un seul sens et dans l'autre. Il m'a répondu, non. Je ne comprends pas ta question. Moi, je joue par rapport au mont Agun, qui est le mont, le volcan, qui est l'entité la plus religieuse, la plus mystique de l'île. Je joue toujours face au mont Agun. Donc, je ne comprends pas ta question. Voilà une des choses qui m'a profondément choqué dans leur perception de la musique, ensuite dans l'organisation de la musique. C'est une musique éminemment sociale. Ça veut dire que quand ils font la cuisine rituelle, ils font la même musique, la cuisine rituelle, j'entends bien la cuisine pour la bouffe, d'une manière rituelle, ils font la même musique, ça veut dire que quand ils coupent les instruments, c'est exactement les mêmes mouvements qu'ils font quand ils sont au gamelan. C'est les mêmes rythmes, c'est les mêmes formes, et tout est basé sur un apprentissage de la culture. C'est leur culture qui est sociale, ça veut dire qu'on ne peut pas être seul, ça aboutit à une espèce de forme musicale qui est... qu'on ne pourrait pas reproduire, nous. Parce que ce n'est pas du tout une musique...
Ce n'est pas dans notre culture.
C'est pas du tout... Ça ne s'apparente pas à une musique de chambre. Ça ne s'apparente pas à une musique d'orchestre. C'est une chose qui est faite... C'est un corps social qui joue.
Vous voulez dire qu'en Occident, on a tendance à isoler la culture de la vie sociale, à en faire deux choses bien distinctes, mm-hmm. alors que dans d'autres contextes et dans d'autres lieux du monde, eh bien, au contraire, la vie sociale et la culture ne font qu'un.
Ben, c'est le cas de Bali. Hein.
Pour Bali, la profession de musicien n'existe pas.
Voilà, elle c'est n'existe pas. Ça veut dire que
chaque homme doit à peu près 50% de son temps pour servir les dieux. Les femmes, c'est 60%. Ça se traduit par quoi? Ça se traduit par de l'activité musicale, par de l'activité de la peinture, par de l'activité de la cuisine, par de l'activité des offrandes, par l'activité de la responsabilité du clan, etc. C'est une chose qui est normale. Quand on a travaillé avec Bali, une chose aussi qui nous a beaucoup choqué, c'est que quand on est arrivé, on nous a dit, ah ben vous savez, vous tombez dans une cérémonie de crémation collective, donc on ne va pas pouvoir travailler avec vous de suite. Mais on a vu tout un village qui préparait ça, et en même temps, il préparait le lieu où on allait travailler, donc il fallait bétonner la cour, il fallait couvrir la cour, etc., etc. Plein d'activités avec des ouvriers qui travaillaient en permanence. Et nous, avec Georges, bien sûr, on travaillait la partition qu'on devait jouer avec Georges. Et puis est arrivée la première répétition. Et tous les gens qui travaillaient dans la cour, que ce soit les menuisiers, les maçons, tous, se sont mis derrière les instruments et ont commencé à travailler avec nous. Et ils connaissaient déjà notre partition. Je me rappelle d'une anecdote. On était en admiration devant un vieillard qui peignait sur une soie noire à de l'or avec des volutes extraordinaires, qui était l'essence même de leur culture, qui était vraiment le reflet de leur éducation, etc. À côté de lui, il y avait une petite fille, qui devait avoir 6-7 ans, qui regardait le grand-père peindre. Puis le grand-père a été appelé à couler du béton, donc il est parti couler le béton. Et la petite fille a pris les pinceaux et a continué les volutes d'or avec la même perfection, avec la même direction, avec la même esthétique. Elle s'est dit, mais on est des cons. On n'a rien compris.
À propos du gamelan, vous êtes actuellement tous les deux engagés dans un projet, ici. Donc oui. J'aimerais que vous disiez quelques mots.
Ben voilà, c'est-à-dire que à la fin de cette histoire, on s'est retrouvé donc avec un gamelan complet, un kébiar, à Paris. Le trio s'est séparé. Donc
ça se présente comment, un gamelan complet? Voilà. C'est combien de pièces?
Ça se joue à 24 personnes, 25 personnes à peu près. C'est, je ne les ai jamais comptés, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 petits claviers. Un clavier qui se joue à 4, un ensemble de gongs qui se joue à 1. Ensuite, il y a deux kendangs, ce sont les tambours qui se jouent à deux. Ensuite, il y a le kempli, il y a les chenchen, il y a le rebab que nous on joue pas, il y a les seling qui sont les flûtes qu'on joue pas. Donc c'est un ensemble de populations qui représente à peu près le visage d'un village. Voilà, ça se joue entre 25 et 26. Et donc à la fin du trio, quand on s'est séparé en 2002, qu'est-ce qu'on fait de ce gamelan? Il était là dans notre studio. Et pour des histoires affectives, je dirais, puisque quand ce gamelan a été construit, il a fallu bénir le gamelan, qui sont des grandes cérémonies très importantes pour eux, un peu moins pour nous, ça nous échappe un tout petit peu comme point de vue culturel, mais on nous a dit, mais vous devez participer à la bénédiction du gamelan. Alors mes deux autres collègues ont décliné l'invitation, et un Georges qui me dit, écoute Gaston, si tu y vas, j'y vais. Donc on s'est retrouvé au milieu du gamelan pour la bénédiction face à un prêtre. Et donc on a fait quand même un sacré voyage à l'intérieur de ça, ce qui fait qu'émotionnellement je ne peux pas me séparer de cet instrument. Donc en 2002, j'ai dit ben, je rachète vos parts au gamelan et j'achète le gamelan pour moi. Donc je me suis retrouvé avec ce gamelan. Pour moi, un gamelan, c'est pas un objet de musée. Ça doit travailler, ça doit jouer, ça doit sonner, parce que sinon un instrument qui ne joue pas, il meurt. Donc je profitais de tous les voyages des balinais qui arrivaient à Paris pour donner cet instrument, mais j'avais quand même une très grande gourmandise de savoir comment on peut travailler cet instrument. Donc j'ai eu l'opportunité, il y a 4 ans de ça, de retrouver un type qui venait de Los Angeles, non, de Vancouver, qui est professeur d'université, spécialiste de gamelan. Il est arrivé en France pour une année sabbatique, il m'a dit, j'ai appris que tu avais un gamelan, est-ce qu'on pourrait le travailler? Donc on a téléphone arabe, recruter pas mal de gens qui viennent de tous les milieux hein, à Paris. Et donc, pendant un an, on a travaillé le gamelan. Une joie absolument fabuleuse. Hein. L'année d'après, on a trouvé un professeur qui vit à Londres, Andy Channing, qui est venu, qu'on payait nous-mêmes de notre poche, pour nous enseigner le gamelan. Et on a continué à travailler. Mon épouse a participé depuis le premier jour à cette affaire, bien sûr. Et donc, on a joué cet instrument. Et puis, la retraite arrivant pour le conservatoire, on a décidé de venir habiter à Marseille.
Donc le gamelan a suivi.
Donc le gamelan a suivi. Je ne vais pas laisser le gamelan à Paris. Donc j'amène le gamelan à Marseille. Qu'est-ce que je fais? Je discute avec des gens en disant où c'est que je peux le mettre. Finalement, à la friche Belle de Mai, on me dit on va te trouver un endroit pour mettre le gamelan. Et puis là, il y a Raphaël de Vivo avec le GMEM qui me dit Ton gamin est arrivé à Marseille, je voudrais qu'il participe au concert dans un concert au festival. Donc, on fait revenir Andy Channing, on reconstitue un groupe à Marseille avec des gens qui viennent de tous les horizons, qui ne sont pas fatalement musiciens, je crois qu'il n'y en a pas, à part nous. Et voilà, et on va faire un concert du Gamelin le 14 mai, et c'est une joie fabuleuse de pouvoir.
Et il y aura une danseuse.
Bien sûr, il va y avoir une danseuse, et c'est une joie extraordinaire de rentrer dans cette musique avec les moyens qu'ils emploient. À savoir qu'on s'est interdit toute écriture, on s'est interdit tout système, ce n'est seulement que le langage oral, on écoute, on reproduit, on mémorise et on joue. Et quand on arrive à jouer, c'est un bonheur fabuleux. Peu de gens se sont penchés sur la création, sur cet instrument. Lou Harrison a fait ça. Les Américains sont un peu plus ouverts sur ce plan-là.
Mash,
en Europe.
Mash,
il a écrit
pour le javanais.
C'était pour le javanais. Ils sont un peu plus, en France, ils sont, disons, en Europe, ils sont un peu plus timorés dessus. Alors, il y a une raison pour ça, c'est que de partout en Europe, on trouve des gamelans javanais, mais on ne trouve pas de gamelan baliné. Alors, c'est évident que si on ne trouve pas de gamelan baliné...
C'est difficile d'écrire pour quelque chose qu'on ne connaît pas.
Dans le concert qu'on va faire, il y a une pièce d'Andy Channing, le chef d'orchestre, donc, qui nous fait travailler, qui a composé aussi une pièce pour le gamelan baliné qu'on va jouer. Je pense que par la suite, beaucoup de compositeurs vont être attirés à composer ça. Sauf que le problème du gamelan, c'est qu'il est pentatonique. Et en étant pentatonique, c'est des modes qui sont quand même restrictifs. Alors c'est difficile quand on écoute.
Pentatonique, c'est-à-dire qu'il y a une gamme de 5 sons.
Voilà, il y a une gamme de 5 sons.
Mais, dans cette gamme de 5 sons, les claviers ont un ou deux commas de différence sur le même clavier, ce qui donne évidemment
des
pas.
Des battements.
Ça donne des battements qui sont très différents.
Un coma, c'est une petite différence de hauteur de son,
voilà.
C'est ça ?
Oui.
C'est la neuvième, un coma, c'est la neuvième partie de un ton. On va rentrer dans la discussion publique, c'est pas l'objet. Pour montrer à quel point ces civilisations sont intelligentes et cultivées, j'ai eu l'idée un jour, quand j'étais à Bali, de demander au pandé, celui qui fabrique les instruments, est-ce que je pourrais avoir une octave de gong chromatique, c'est-à-dire sur notre mode occidental. Alors, je m'étais muni d'un accordeur électronique. Et je commence à m'expliquer avec interprète interposé que je voudrais avoir des sons absolument justes. Donc, je cherche dans tout son cafarnaum un gong et je tombe sur un si bémol moins 20 dB. C'est-à-dire un si bémol bas. Et puis, je trouve un autre gong qui me satisfaisait et il faisait plus 20 dB. Donc, un si bémol trop haut. Et je lui ai dit, si tu veux me faire un instrument qui sonne si bémol, il faut que l'aiguille soit sur zéro. Là, le son sera juste. Et je vois cet individu prendre le premier gong, écouter, le deuxième, tu vois. Alors, le gong que tu veux, c'est ça. Et il se met à chanter et l'aiguille était sur zéro. Et non seulement l'aiguille était sur zéro, mais elle est restée sur zéro. Ça veut dire que si vous prenez un accord électronique avec la voix et que vous essayez de changer une note, l'aiguille, elle va faire de gauche à droite à toute vitesse, mais jamais se fixer sur la note juste. Lui, ça s'est fixé sur la note juste. Puis après, il m'a dit, tu sais, il ne faut pas être étonné, parce que quand je construis deux claviers, si je les accorde absolument identiques, le son n'est pas intéressant parce que, et il me dessine, un trait tout droit. Il me dit, si je les accorde, mais trop différents, le son n'est pas intéressant. Et il me dessine
une
ligne brisée qu'avec des carrés. Il me dit, mais si je l'accorde comme j'ai envie d'écouter, alors là, le son est beau. Et il me dessine
une sinusoïde.
Longtemps ici, notre connaissance des musiques du monde était liée à la fameuse collection Okora, où un certain nombre d'ingénieurs du son allaient un peu partout de par le monde, avec un enregistreur un peu minimal, enregistrer sur place la musique qu'ils y découvraient. Et puis, au début des années 90, s'est apparu un mouvement qu'on a appelé World Music. Un certain nombre de studios, en Europe et en Occident, ont ouvert leurs portes à un certain nombre d'artistes venus d'Afrique, venus d'Asie, pour venir y enregistrer leur musique et mettre à leur disposition les moyens techniques qui sont les moyens techniques modernes d'enregistrement. Qu'est-ce que vous pensez de cette démarche et de ce qui en résulte de ce que l'on appelle aujourd'hui la world music?
Moi, je pense que la collection Okora est une collection absolument fabuleuse. C'est des témoignages de culture non pervertis. C'est des choses qui sont d'une authenticité parfaite. Ce que j'appelle, moi, la world music, donner à des gens qui ont, pour qu'on connaisse leur musique, c'est, avant tout, c'est pour qu'on puisse la comprendre et la connaître, des moyens de techniques d'enregistrement fabuleux, je trouve ça absolument positif. Le problème, c'est que quand on invite ces gens-là, finalement, c'est pas pour connaître leur culture, c'est pour mélanger leur culture à la nôtre. C'est-à-dire de se permettre de dire, bon, ce que vous faites chez vous, c'est très très bien, hein, mais on va faire quelque chose d'un peu mieux. Et j'ai rarement écouté quelque chose d'un peu mieux.
Pourtant, en règle générale, le métissage culturel, c'est plutôt positif, non ?
Normalement, oui.
Normalement, le métissage culturel est positif à condition qu'on reconnaisse à l'autre l'intégralité de ses droits. C'est-à-dire qu'on reconnaisse qu'il est aussi important que nous. Est-ce qu'on fait ce chemin vis-à-vis, vers eux, ou c'est eux qui font le chemin vers nous ? Est-ce que quand on mélange les cultures, on va vers leur culture autant que ce que eux viennent vers notre culture ? Mais je n'ai pas trouvé. J'ai trouvé toujours que c'était vers notre culture qu'on les attirait et non pas qu'on allait vers leur culture. Et je trouve que c'est la moitié du chemin. La world music telle qu'elle se pratique maintenant, pour moi, n'est jamais qu'un autre regard de la variété, mais pas du tout un objet culturel.
Des compositeurs occidentaux se sont beaucoup intéressés aux musiques du monde, sans du tout parler de world music, hein. Mais des compositeurs issus d'univers musicaux très lointains se sont aussi intéressés à notre musique orchestrale. Je pense par exemple à des compositeurs venant d'Asie, Toru Takemitsu par exemple,
qui vient du Japon.
Qu'est-ce que vous pensez de leur travail ?
Ça, c'est un gros problème.
Mais pas forcément.
C'est un gros problème.
Attends, tu permets, en ce qui concerne par exemple Toru Takemitsu, Tonta Tiet. Je n'ai pas en tête tout de suite le nom de compositeur, mais ils ont apporté une part de leur culture, de leur écoute asiatique, là en l'occurrence, sur des instruments occidentaux. Et pour en tout cas ces deux compositeurs nommés là, c'est plutôt une réussite.
Absolument.
C'est plutôt une réussite. Mais, Osokawa aussi.
Oui, mais dans tous réussite. Les compositeurs que l'on cite, c'est des Japonais. Et alors pourquoi ? C'est une chose qui est compréhensible. Au moment où, en France, toute cette musique s'élaborait, elle était communiquée intégralement au Japon. Ils connaissaient ça en temps réel. Et donc, en temps réel, ils s'appropriaient la musique qui venait de l'Europe. Et dans un premier temps, ça donnait quoi ? Ça donnait des compositeurs qui écrivaient de la musique européenne. Et ils étaient totalement perdus dans leurs racines. Leurs racines n'existaient plus, ils écrivaient plus que la musique contemporaine, européenne. On peut avoir du respect pour ça, hein, parce qu'ils la faisaient très bien. Et puis, il est arrivé un deuxième temps où ils se sont repenchés sur leur culture, et notamment Takemitsu, et notamment tous ces gens qu'on vient de citer, sur leur propre, comme Taïra, sur leur propre culture pour agiter le shaker, et sortir la musique qui sort maintenant. C'est-à-dire que effectivement, c'est une énorme richesse que d'arriver à un certain degré d'intégration, de pouvoir retrouver sa culture pour s'affirmer dans sa plénitude.
Aujourd'hui, de très nombreux compositeurs de l'avant-garde, et même du plus extrême de l'avant-garde, effectivement, viennent du pays du soleil levant, du Japon. Je pense à Otomo Yoshihide ou à Zbigniew Karkowski, dont le nom ne sonne pas très japonais, mais qui y vit. Comment est-ce que vous expliquez que ce pays soit vraiment très, très en pointe en matière de création musicale ? Est-ce que c'est lié au déracinement lié à ce que ce pays a vécu à l'issue de la Seconde Guerre mondiale ?
Ça, c'est possible. Mais...
Honnêtement, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Est-ce que ce sont des gens, effectivement, qui ont émigré quelque part en Europe? Mais je n'ai pas l'impression.
Je pense que...
Non, je pense qu'ils sont restés dans leur pays. Je pense qu'ils ont eu besoin de ce contraire, de se solidariser devant une atrocité.
Est-ce que les racines ne sont pas parfois pesantes?
Écoutez, si je juge le mouvement dans le monde entier, je pense que la racine européenne est excessivement pesante. La racine européenne essaie de bouffer tout le reste du monde. Et pour autant, l'Europe, c'est un vieux pays avec une soif qui a un peu disparu parce qu'on est un vieux pays. Et il y a des pays émergents qui ont une soif et une vitalité que n'a plus l'Europe. Ça va changer, mais si je disais avant que je reçois beaucoup de demandes de compositeurs sur le théâtre musical parce qu'ils sont ailleurs et qui veulent connaître ce phénomène, ils ont une gourmandise à connaître tous les mouvements que la vieille Europe n'a peut-être plus. On est un peu
blasé,
endormi
peut-être.
Dans notre culture, on est un peu satisfait des grandes œuvres qui ont été faites et moins tourné vers l'avenir. Pourquoi on appelle toujours ça la musique contemporaine? Pourquoi on appelle toujours ça la musique d'avant-garde? C'est la musique d'aujourd'hui, on devrait dire.
Au cours de cette émission, vous avez pu écouter quelques extraits musicaux de Carlos Roque Alsina, dirigé ou interprété par Gaston Silvestre, ainsi que des extraits d'une anthologie des musiques de Bali, publiée dans la collection Musique du Monde. Et enfin, pour terminer, une improvisation aux arbres par Pablo Cueco. On se retrouve demain avec Brigitte et Gaston Silvestre. Il y sera question de binômes.